RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'after. On est ensemble pendant deux heures, on est ensemble jusqu'à minuit. J'ai fait un gros à vivre, c'est pour toi. Vivre un steak sur l'hashtag RMC Live et sur Twitter. Il aime pas quand je crie, donc je le fais. Il y a un mec qui m'a demandé de lui faire une petite dédicace, donc c'est fait. Ce soir avec nous dans l'after, Prince Ali, Ali Benarbia bien sûr. Bonsoir Prince Ali.
Pour la vida.
Quoi?
Que partout. Pour la vida.
Pour la vida.
La pauvre imitation de Nicolas Villas.
Ah non, pas du tout.
Oui, quand tu lui mets son truc dans le nez,
c'est les costariciens qui disent ça.
C'est les costariciens, ouais.
T'en connais beaucoup, toi.
Ouais, les costariciens du 16e que tu vois.
Ouais. T'as joué avec lui, non, à City?
Oui, à City.
J'allais dire un bon joueur.
Attends,
j'allais balancer un gros mot.
C'est pas ça.
Tu sais quoi? C'est quoi la question? Vas-y, refais-la.
Pour la vida.
Pour la vida.
Non, et j'étais.
Non, mais lui, il me fait. Pour la vida.
Non, pour la vida.
Pour la vida.
Deux jours au Costa Rica.
Il paraît que c'est très beau comme pays.
C'est très beau comme pays, je vous le conseille. J'y suis allé 4 jours.
Non, lui, il le dit avec l'accent pied noir tunisien. Lui, il a dit.
C'est ça.
Pour la vida. Alors, lui, c'est pas dit des trucs avec l'accent tunisien, c'est François
Malardo. Pour la vida. Oh, viva!
Je suis en train de me nico-vilasser, les amis.
Nico-vilassien, effectivement.
Oui. Il m'a vendu ses lunettes.
C'est exactement les mêmes.
Puisqu'il fait des dédicaces gratuites, mais il vend ses lunettes. Et en revanche, j'ai un gros problème. Je ne suis pas aussi hirsute que lui. Donc, donnez du poil. Si vous avez du poil pour que je fasse le Villas, donnez du poil.
C'est un scratch.
Ou vendez du poil.
Je vous donne les résultats, messieurs, de ce soir. 25e journée de Ligue 1 cet après-midi. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 à Toulouse avec un but de Neymar. On vous attend d'ores et déjà au 32-16, supporter du PSG Toulouse, pour revenir sur ce match. 0-0 entre Guingamp et Caen. Match spectaculaire entre Dijon et Nice. C'est finalement les Dijonais qui se sont imposés 3-2 pour le plus grand bonheur d'ailleurs de François Malardo.
Ouais.
Victoire de Bordeaux 3-2 face à Amiens, là aussi il y a eu du spectacle. Montpellier s'est imposé 1-0 à Metz et Monaco s'est imposé 4-0 à Angers. Conséquence au classement, parce qu'il y en a, vous savez que cette 25e journée avait débuté par le match nul hier entre Saint-Etienne et Marseille. Le leader est toujours le Paris Saint-Germain avec 12 points d'avance sur l'AS Monaco. Parce que Monaco est du coup deuxième, vous l'aurez compris, avec un point d'avance sur l'Olympique de Marseille. Lyon qui jouera demain face à Rennes, match que vous pourrez suivre à partir de 20h sur RMC. Et quatrième avec 48 points, à la cinquième place avec 37 points. On a Montpellier en attendant le match de Nantes de demain face à Lille. Ils sont là les Montpellier, hein. Ils sont en train de grappiller des points là, ils sont en train de monter au classement, hein, les Montpellier. Hein. Messieurs, on va débuter par le plus important. Et le plus important, ce sont bien entendu les 3 points.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel, c'est que c'est pour moi.
Tiens, j'allais oublier, juste un petit résultat de Ligue 2. Lens Valenciennes, il y a eu un but partout. Je donne quelques résultats à l'étranger. Tottenham Arsenal 1-0. West Ham Brighton, il y a eu 2-0. Everton a battu Palace 3-1. Notez que Mangala s'est blessé, les sorties touchées au genou. Man City a tapé Leicester 5-1 avec un quadruplé d'Aguero. Villarreal, adversaire de l'Olympique Lyonnais, on en parlerait tout à l'heure avec Fred Hermel, s'est incliné à domicile face à Leganés. Deuxième défaite de rang pour Villarreal. L'Atlético s'est imposé 1-0 à Malaga avec un but de Griezmann. Il y a eu pas mal de buts également en Allemagne. Le Bayern a gagné 2-1 face à Schalke 04. Le Bayer Leverkusen a perdu à domicile 2-0 face au Hertha. Dortmund a gagné 2-0 face à Hambourg et Michy Batshuayi a encore marqué. Francfort a battu Cologne 4-2 et puis Milan a gagné, a battu Spal 4-0.
Spalletto.
Voilà, Spalletti même. Match en cours, on est à l'heure de jeu entre le Real et la Real Sociedad. 4-0 pour le Real Madrid, on y reviendra avec Fred tout à l'heure, avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo. Et puis en Italie, le Napoli était mené 1-0 face à la Lazio. Ça, c'est l'un des chocs, hein, de la 24e journée de Serie A. Eh bien, le Napoli mène 2-1. Voilà. Ah, on est à la 55e.
Le Napoli qui a rendu un très bel hommage à Goulam qui s'est gravement blessé à la rotule.
3-1 même, me dit Jérôme Thomas. Et le Benfica au Portugal mène 1-0 face au Portimonense.
Oui,
Braga, adversaire de l'OM en Ligue Europa, gagné 3-1 face à Setúbal. Les 3 points, on commence par toi, Ali.
Ouais, avec plaisir.
Pour un vide.
Oui. Bordeaux-Poyet. Dans le sens où, depuis que Poyet a récupéré cette équipe-là, ben ça va beaucoup mieux. On avait eu Bédouet, on a eu Poyet pendant 3 matchs. Ça fait 4 victoires pour Bordeaux. C'est quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'entends mon ami François Monardo qui me dit...
Non, Manardo, s'il vous plaît, monsieur.
Manardo.
Benarbia,
pas dit Manardo. Manardo, mais ça t'entends pas. Oh.
Ouais, vas-y. Bon, j'entends son tes 3 points, moi.
T'entends ce que tu veux. François Manardo, dans le sens qui me dit, ben, les joueurs, ça a quand même un petit peu des crapules. Je crois pas que c'est un problème de joueurs. Dans le sens où les joueurs, eux, ils veulent jouer, ils veulent gagner des matchs. Mais après, ils ont besoin de se faire taper, ils ont besoin de se faire aimer, ils ont besoin. C'est comme un petit peu des enfants, même si c'est des joueurs professionnels. Et peut-être que Poyet a trouvé la solution. Il a changé quand même un petit peu des joueurs pour leur donner un petit peu, rebooster ça. Et ça se passe bien, même si encore il y a des prémices dans le sens où cette équipe de Bordeaux peut prendre encore des buts, on l'a vu contre Amiens.
Deuxième point, Amiens.
Oui, Amiens. On pourra en revenir à cette équipe d'Amiens qui allait un moment.
Qui a perdu 3-2
bien.
À Bordeaux. Hein.
Et je le dis souvent, comme j'avais parlé pour Strasbourg, on oubliait que le maintien et que ça va être très dur, c'est bien de gratter des points à droite à gauche et de ne pas oublier qu'ils sont en Ligue 1, c'est-à-dire que tu peux dominer et perdre des matchs ou bien jouer et perdre des matchs. Et je pense que Pélissier doit reprendre un petit peu les fondamentaux, sinon ça va être, cette fin de saison va être très très dure pour cette équipe d'Amiens.
Et ton dernier point, c'est le Paris. Juste, Amiens est 16e avec 25 ouais. points. Ils sont à égalité de points avec Angers et avec Lille, qui est barragiste et qui jouera demain donc face à Nantes. Et Troyes a deux matchs en moins. Ils sont avant-dernier, les Troyens, avec 24 points. Et on a toujours Metz dernier avec 18 points. Voilà.
PSG Real, dans le sens où le Real, même s'ils battent en ce moment la Real Sociedad, qui va très très mal, ben les Parisiens continuent. Ce qu'il faut faire dans un grand club, c'est gagner des matchs, même s'ils ne les gagnent pas aussi facilement qu'ils devraient le faire. Et j'espère juste une chose pour une fois, concernant cette équipe du PSG, c'est qu'ils se retrouvent à 100% sans blessés pour ce match, déjà, ce match aller. Et le problème du PSG, c'est qu'à chaque fois, ils se retrouvent dans ces matchs contre Barcelone ou Real, soit un joueur il manque, soit une sentinelle il manque, soit un blessé, soit un suspendu. J'espère que ça va pas être l'erreur pour déjà le match.
Oui, enfin, c'est les choses qui se passent assez souvent à ce stade de la compétition ou de l'année, quel que soit le club.
On y reviendra tout à l'heure, messieurs, sur le match entre Toulouse et Paris Saint-Germain.
Mais non plus, les Parisiens, mais trois points pour aller un peu plus vite.
Il a géré, on va dire, voilà. Trois points, c'est rapide.
Alors, le premier point, c'est Metz, parce qu'on les avait vus commencer à remonter. On avait parlé de Grenatada. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, qu'ils ont commencé à revoir un peu la lumière. Et puis, ils se sont pris les pieds dans le tapis et ils perdent à domicile ce soir contre Montpellier. Le deuxième point, alors, Balotelli. Pourquoi Balotelli ? Et qui est mauvais, voire nul ce soir, mais pas seulement. Il y a deux joueurs dans ce championnat de France à qui tu as envie de sortir la boîte à claques, à qui tu as envie de foutre des baffes, c'est Neymar, parce qu'il a évidemment tendance à prendre tous les défenseurs de Ligue 1 pour des plots. Mais bon, c'est sympa, hein, ça chante beaucoup,
Neymar,
des fois... C'est un peu à la limite, mais bon. Et en revanche, Balotelli, t'as envie de lui mettre des baffes, mais pour une autre raison, c'est quand il pense qu'il peut tout faire tout seul, et qu'il le fait en plus, et qu'il le fait mal, et qu'il ne sert ni le collectif, qu'il est insupportable sur le terrain, bref, que t'as juste envie de le renvoyer dans le vestiaire. Voilà, le très mauvais Balotelli, alors qu'il a porté cette équipe de Nice, qui va mal d'ailleurs, on en parlera plus tard. Et enfin, le dernier point,
juste parce que t'évoques Balotelli, juste une petite parenthèse, le community manager de l'OGC Nice, du compte Twitter de l'OGC Nice, a publié une image de Balotelli qui a pris un carton jaune, je cite, hein, dans l'intervalle, alors après avoir encaissé le but de Julio Tavares à la 78e, Mario Balotelli a hérité d'un carton jaune après s'être agacé d'insultes racistes du public. Voilà, c'est le Nice qui a publié cette information. Je te laisse poursuivre ton troisième point.
Alors c'est un autre thème. Le dernier point, c'est Real PSG, puisqu'on est à J-4 et que, évidemment, tout le monde en parle. Le jeu de savoir sur le milieu, qui il faut mettre en sentinelle, Diarra, Lo Celso, est-ce que peut-être que après en 8, Draxler jouera, est-ce que Di Maria, qui fait feu de tout bois, va redescendre pour laisser une place à Mbappé? Sur ce milieu parisien, face au milieu madrilène, moi, je pense que quelle que soit la formule, le milieu espagnol avec Casemiro, qui n'a pas joué ce soir parce qu'il a été préservé, mais Casemiro, Modric, Kroos, est supérieur au milieu parisien. Donc, tu peux me la faire dans tous les sens. Pour moi, le résultat est le même.
Faudra chercher autre chose.
Je vous donne mes trois points également. Je vais commencer par le premier match de la journée, le match entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Alors moi, il y a deux joueurs qui ont attiré mon attention. Alors il y a Neymar, parce qu'il a touché un nombre de ballons incalculable, mais surtout, alors le mec, il est partout. Hein. Alors il est venu chercher les ballons, il distribuait, il a attaqué, il a tapé des poteaux, des barres. Enfin, il a été monstrueux encore une fois. Et il y en a un autre, c'est Kimpembe, parce qu'il a fait un match. Alors, ok, c'était Toulouse qui est loin d'être la meilleure attaque de Ligue 1 cette saison, mais il dégage une telle sérénité, ce mec. Il a vraiment fait un très gros match. Absolument. Alors visiblement Unai Emery a très certainement déjà choisi sa charnière pour le match. Ce sera très certainement Marquinhos, Thiago Silva, mais c'est vrai que Kimpembe il est quand même là. Le deuxième point, c'est Monaco est là, parce que Monaco est deuxième. Moi on en parlait hier en off. Moi je voyais Angers taper Monaco aujourd'hui.
Ah,
je
vous
dis franchement,
je l'ai dit,
ils n'avaient pas leur deux gardiens, il y avait pas Falcao, je sais pas, ils étaient pas mal, etc.
Et qu'est-ce que je t'ai dit, moi?
Toi t'as dit il y a un match nul. Donc du coup t'as eu
faux
également. Non, je t'ai dit qu'ils allaient gagner.
Oui, victoire de Monaco.
Donc voilà, Monaco est encore là, ils sont deuxième, les Monégasques, malgré les absences, les blessures.
Et 4-0
bravo pour le goal à Vera.
Et dernier point, et ben c'est le compte, parce qu'il permet à Montpellier de monter à la 5e place. Alors en attendant le match de demain de Nantes, c'est vrai, il permet surtout à Montpellier de pas encaisser de but. Il a fait un très bon match, le compte, encore une fois. Ça faisait 7 matchs que l'ex meilleure défense de Ligue 1, et c'est pas si vieux que ça, et bien ne terminait pas un match sans encaisser au moins un but. Et ben ce soir, ils n'ont pas encaissé de but, et c'est grâce notamment à le compte. Il est vraiment très bon, ce gardien. Ouais. Jeannot Rességuier nous l'expliquait dimanche. Il fait partie des joueurs dans le vaste panel des joueurs qui est observé par le staff de l'équipe de France, bah, qui est dans cette liste justement, Lecomte. Et c'est vrai que il est pas mal, moi, ce gardien. Moi, je l'aime bien. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet du premier match qui nous intéresse, le match du deuxième. Angers-Monaco, succès 4-0 de l'AS Monaco. Alors, but contre son camp de Butel à la 10e minute de jeu, doublé de Jovetic et but de Radji dans les 20 dernières minutes. On est avec Loïc, supporter de l'ASM qui nous a appelé au 32-16. Salut Loïc.
Salut les gars.
Salut Loïc. Salut Loïc.
Comment tu vas Loïc? Troisième succès de rang. Alors après Montpellier, après le match spectaculaire face à Lyon également, Monaco enchaîne. Monaco est deuxième ce soir, Loïc. Hein.
Bah écoute, ça fait du bien, hein, surtout là avec le duel avec à distance avec l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, de faire des séries et puis encore plus, tu l'as rappelé, avec les absences de ce soir et l'absence de Falcao et aussi bah, des deux gardiens et se retrouver avec du coup encore Cédoucci dans la cage. C'est vrai que ça pouvait pas être compliqué ce soir à Angers, ça avait tout dans un match piège. Et puis ben les mecs qui ont été alignés titulaires ont répondu présent. Jovetic a livré une super prestation, son but est à son image, technique, c'est beau, c'est élégant à voir jouer. C'est pas nouveau hein, mais c'était très classe. Et puis pareil, si Falcao était pas là ce soir, on peut aussi noter le retour de Thomas Lemar et lui il fera énormément de bien dans la dernière ligne droite.
C'est vrai que Jovetic a fait son match. Hein. On pouvait être un peu inquiet face à l'absence de Falcao. Il est pas mal ce joueur. Ben, on le connaît, mais
non, t'as l'absence de Baldé et Falcao et t'as la chance d'avoir Diakabi et Jovetic. C'est pas mal pour une attaque hein, en ayant perdu.
Et avant tout Carrillo.
Ouais, en ayant perdu Carrillo. Donc, mais là, quand tu as Lemar qui revient à la baguette, automatiquement cette attaque elle se transforme. Et quand t'as la chance d'avoir à l'après à la fois Rony Lopez, à la fois Lemar, à la fois Falcao et je pense après Jovetic ou Baldé, ben là automatiquement cette équipe de Monaco qui n'a rien à jouer en Europa League ou quoi, ouais. Tu te rends compte, ça il peut faire mal. Donc cette équipe de Monaco, il faudra compter avec elle jusqu'au bout.
Ouais, il faut vraiment être surpris par ce succès monégasque à Angers. Je trouve pas,
même
parce
s'il manquait de joueurs.
Bah, il manquait du monde quand même.
Il manque du monde, mais après tu sais qu'ils ont un peu quand même de profondeur de banc, qui sont supérieurs à Angers. Et dans ces matchs-là, quand tu es Angers et que tu es mené, après, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile parce que techniquement, et aussi dans les duels, mais techniquement, l'équipe monégasque est vraiment supérieure, elle attend, et puis avec un Lemar qui revient à la baguette, en contre, elle l'étude.
Ouais, j'avais dit hier soir, Nico, tu me dis Angers était bien à domicile, il commence à gagner, si ça c'est bien, ça va être bon pour Monaco parce qu'ils vont les prendre en contre. Il fait 3 victoires à domicile. Angers.
Oui, c'est ça. Mais au-delà de ça, c'était Angers, jusqu'à la mi-saison quasiment, c'était les rois des nuls, sans jeu de mots. C'est-à-dire qu'ils faisaient que des matchs nuls, les Angers. Et maintenant, c'est soit ils gagnent, soit ils perdent.
Oui, mais là, ils gagnaient 3 matchs à domicile. Ouais. Et là, Monaco adore quand t'as une équipe comme ça pour jouer les codes.
Prochain match, c'est face à Dijon. C'est des équipes qui jouent le maintien et Toulouse, Loïc.
Oui.
Alors c'est vrai que sur le papier, c'est les matchs que leur fastoche. Mais enfin, on l'a vu, hein, Dijon soir, ils ont tapé Nice, 3-2 à domicile.
Ah, ils sont beaux à domicile.
Ouais, vas-y, Loïc.
Et puis Toulouse, oui, a posé quelques difficultés. Bon, et le bus a été aligné, on l'a vu cet après-midi. Mais c'est vrai, après, faut pas tomber dans le piège de ces matchs-là. Et puis, ce serait des points bêtes à ne pas perdre. Et comme l'a rappelé Ali, après, l'importance aussi dans cette fin de saison, c'est que on n'a plus rien à jouer. D'un certain côté, malheureusement. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, avec juste cette finale de Coupe de la Ligue à l'horizon le 31 mars, l'effectif et Leonardo Jardim peut se concentrer sur cette fin de championnat. Et à mon avis, ça comptera énormément à l'heure où Marseille et Lyon aussi sont alignés sur les joutes européennes.
Franchement, Loïc, en début de saison, tu t'attendais à quoi, toi, par rapport à Monaco? Parce qu'il y a eu pas mal de départs, notamment, une fois encore.
En fait, c'est toujours compliqué parce que, tu vois, beaucoup m'en parlent, beaucoup nous en parlent, ils viennent nous voir. Mais c'est incroyable, vous étiez champion de France l'année dernière et votre club développait un des meilleurs jeux d'Europe. Et puis, cette année, c'est le pain noir, il se passe rien à Louis II, on s'emmerde. C'est vrai que, de toute façon, on s'y attend. Après, il faut être conscient d'une chose à Monaco, c'est que le projet est comme ça, c'est malheureux, mais une année, du coup, tout explose. Les recrues qui sont arrivées avant, qui ont mis du temps à s'adapter, du coup, là, explose, comme l'année dernière. Et puis, cette année, les recrues ont eu plus de mal à s'intégrer rapidement dans l'effectif au championnat de France. Jovetic, Keita Baldé, maintenant, prouve aussi que c'est quand même un très bon joueur, et à mon avis, il faudra aller beaucoup de bien à cette équipe-là. Mais c'est vrai que cette année, les recrues ont eu du mal. Diakabi aussi, qui est arrivé pas pour remplacer forcément Mbappé, mais quand même, il est arrivé avec quand même ce transfert-là à plus de 10 millions d'euros du Stade Rennais. Et ces recrues-là n'ont pas apporté satisfaction tout de suite et ont eu du mal à s'intégrer. Et c'est pour ça qu'après, il y a une saison en dents de scie. Et l'année prochaine, sûrement, la sauce reprendra. C'est vrai que c'est très compliqué à suivre.
Merci de nous avoir appelé, Loïc. À très
Merci
bientôt.
Merci, Loïc.
Merci, messieurs.
Bonne soirée. Ouais,
salut. C'est pas compliqué, hein. Une année, on vend. Une année, on est performant.
Ouais, c'est pas mal.
On peut le résumer comme ça.
Ouais, c'est de l'autre côté, il te faut la Champions League. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il termine deuxième.
Il s'assure un minimum syndical en qualité de joueur pour arriver dans les trois premières places dans la Ligue 1. Et ils y arrivent d'ailleurs.
Ouais. Vous n'êtes pas plus étonné que ça de les voir deuxième aujourd'hui,
moi. Non,
pas moi.
Non, malgré les pertes de l'été dernier, parce que c'est toujours à ça auquel on fait référence. Non, je trouve pas.
Et pendant un moment, ils n'avaient pas les marres, Falcao un peu blessé, donc là.
C'est pour ça. Enfin, c'est tout à l'heure. Alors même si c'est vrai qu'ils jouent que la Ligue 1
la gueule pendant plusieurs mois aussi. Ouais.
Moutinho qui fait une bonne saison.
Alors il y a l'équipe qui va moins bien du coup, c'est Angers. Angers qui a donc perdu à domicile ce 4-0 aujourd'hui face à l'AS Monaco. On le disait, les Angevins qui sont 17e, ils sont à égalité de points avec Lille qui est barragiste et qui compte un match en moins. On a Valentin, supporter du SCO, qui nous a appelé au 32-16. Salut Valentin.
Salut Valentin.
Salut Valentin.
Alors Valentin, est-ce que tu commences à t'inquiéter, Valentin, là?
Alors, être inquiet, non, parce que l'année dernière, on était à peu près dans la même situation. Tout le monde nous voyait un peu descendre. Et on a réussi à faire quelques bons matchs l'année dernière et on a réussi à se sauver. Après, quand on voit le match de soir, si on continue à jouer comme ça, là, oui, je vais commencer à vraiment être inquiet.
Ouais, alors, il y a quand même beaucoup d'équipes qui jouent le maintien cette saison, à ce moment de la saison, ce qui n'était pas forcément le cas il y a un an, Valentin, aussi. Hein.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que cette année, quand on voit la mi-saison, quand on voit des équipes comme Toulouse, comme Bordeaux, Saint-Etienne, même Lille, qui étaient dans les places pour jouer le maintien, ce qui n'est pas leur place normalement avec leur budget, c'est vrai qu'on était inquiet. Là, quand on voit Bordeaux qui gagne encore ce soir et qui remonte au classement, qui est rentré à nouveau dans le top 10, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on voit les autres passer devant et nous distancer, mais nous, on prend pas de points et c'est inquiétant, là.
Comment tu l'expliques, ça, justement? Parce que c'est vrai que finalement, c'était la stabilité qui était le maître mot qui caractérisait cette équipe d'Angers.
Bah oui, mais sauf que là, quand on voit un match comme ce soir, on est à domicile et on a l'impression qu'il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas ou peu de jeux, on tire 11 fois, on capte qu'une seule fois, ce qui est très peu. On n'allait pas les chercher en défense quand ils avaient le ballon dans leur camp, on n'allait pas les presser. Ça, c'est pas normal quand on est à domicile, quand il y a ses supporters quand on a nos supporters qui sont là pour les pousser, d'aller avoir plus d'envie sur le terrain. Là, il n'y en avait pas ce soir.
Ouais, peut-être.
Après, c'est Monaco en face.
Non, mais vu Monaco, l'extérieur. Mais voilà, c'est Monaco, vu l'extérieur, tu peux te dire, ouais, ils auraient pu aller les chercher, les presser un peu d'abord. C'est pas vraiment le style de jeu d'Angers d'aller prendre l'adversaire à la gorge. Et puis quand t'es à la place du joueur, tu te dis que c'est Monaco en face. Si je me découvre de trop, la sanction elle tombe tout de suite. Et techniquement, on le voit tout de suite.
Disons,
est très lourd au final.
Disons, Valentin, que toi, alors les matchs de ton championnat, alors sans manquer de respect à personne, c'est les deux prochains qui arrivent. C'est Saint-Etienne et puis Lille, quoi.
Oui, voilà. Là, on les joue en plus à la suite. Là, la semaine prochaine, on sort Saint-Etienne, on se déplace à Lille. Là, c'est des matchs, c'est 6 points à prendre. Pour les Saint-Etienne, ça va être compliqué, mais ils ont fait un très bon recrutement là cet hiver. Donc, mais ça, c'est des points. Faut pas qu'on perde des points contre des concurrents qui sont des concurrents directs pour nous pour le maintien. Ça, c'est sûr.
On en revient encore une chose, c'est que dans le domaine technique du haut niveau, t'as beau avoir des joueurs costauds qui défendent bien, qui écoutent bien le coach, la différence, qu'on le veut ou pas, au niveau, c'est technique et intelligence de jeu. Et tu vois la différence que même si Monaco ne peut pas spécialement être bien, t'as des joueurs qui techniquement font la différence et ça change tout.
Alors, on a une réaction d'ailleurs de Kevin sur l'hashtag RMCLF qui nous dit Monaco sera deuxième sans forcer. Sans forcer, je sais pas.
Non, pas sans forcer.
Non, ça sera pas facile.
Sans forcer.
Sauf si Lyon et Marseille nous font du pchit, quoi.
Sans forcer. C'est quoi l'histoire de ce championnat de France finalement, de ce cru cette saison? C'est le maintien, parce que c'est extrêmement resserré avec l'équipe. Paris qui va être champion parce qu'ils sont
décrochés.
Et puis c'est la place sur deuxième, troisième. Et aussi, sans l'oublier, les amis, le parcours en Europa League des trois clubs français.
Enfin, merci Valentin de nous avoir appelé.
Deux et demi plutôt maintenant.
Merci à vous.
Bonne soirée, à bientôt Valentin.
Bonne soirée.
Salut, ciao Valentin. Voilà, on rappelle donc le succès de Monaco 4-0 à Angers. Et nous, dans quelques instants, on va se plonger sur la victoire de Bordeaux. Une de plus, c'est en train de remonter depuis que Gustavo Poyet a pris les rênes de l'équipe. Succès 3-2 face à Amiens, supporter des Girondins, supporter Picard également. On vous attend au 32-16. Est-ce que vous êtes inquiet, supporter Damien? Et comment vous l'expliquez, cette métamorphose de côté bordelais? A tout de suite au 32-16 avec François Manardeau et Ali Bénard.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
avec Ali Benarbia et avec François Malardo avec vous sur le hashtag RMC Live et au 32-16 bien entendu. Je vous rappelle les résultats de ce soir de Ligue 1, bien sûr. Si mon truc veut bien se mettre à jour, il ne veut pas. Ce qui est sacrément.
Vas-y, envoie, Jean-Claude.
Balance plein pot.
Ah, je connais, moi.
Merde. Il y a eu 2-2 hier entre Saint-Etienne et Marseille. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 à Toulouse. Succès de Dijon face à Nice, 3-2. Pareil pour Bordeaux face à Amiens. Montpellier est allé gagner à Metz 1-0. Monaco a cartonné à Angers 4-0. Et pas de but entre Guingamp et Caen. Demain à 15h, il y aura Strasbourg 3. À 17h, Nantes-Lille. Et à 21h, match à suivre à partir de 20h sur RMC. L'affiche entre Lyon et Rennes. Tiens, petit sondage sur le compte Twitter RMC Sport. Di Maria doit-il être titulaire face au Real Madrid? On est à J-4. On sera avec Fred Hermel tout à l'heure au 32-16, le Real qui joue en ce moment même face à la Real Sociedad. 4-0 pour le Real Madrid. Voilà, vous y répondez, puis on vous attend au 32-16 tout à l'heure. On viendra sur la victoire du PSG, 1-0 face à Toulouse. D'abord, on se plonge sur le succès de Bordeaux, 3-2 face à Amiens, 3-3 pour Gustavo Payet depuis qu'il a repris cette équipe. Je sais que ça en énerve certains. Je vous ai écouté ce matin dans les grandes gueules du sport. Tiens, tu sais que j'écoute tous les matins.
Ça t'intéresse?
Ah, bien sûr, oui, j'adore. Avec Sarah Pitkowski que j'embrasse. Quand Christophe Cessieux qui est pas là en ce moment, voilà, Arnaud Souk qui le remplace à merveille. Enfin bref, la famille, quoi. T'as vu je sais qu'il y a un truc qui t'énerve beaucoup parce que je t'ai écouté là-dessus. Toi, le fait qu'un entraîneur s'en aille et qu'un autre le remplace et que les joueurs soient bons, ça te met hors de toi.
Oui, dans le sens où moi, c'est pas un problème d'entraîneur. C'est que les joueurs. On pense que les joueurs, c'est que tactique, 4-4-2, physique, on dit, technique. Non, les joueurs, c'est aussi comme des enfants. C'est suivant qui, le maître de l'école ou pas, les transforme. Et on le dit psychologiquement, c'est important. C'est pas que d'un coup, les joueurs jouent mieux parce qu'ils ont voulu carrer le coach qui était avant. C'est pas du tout ça. Eux, ils veulent gagner des matchs, ils veulent gagner des primes de match aussi qui vont avec, même si dans les grands clubs c'est un peu moins important parce que le projet c'est à la fin. Et automatiquement, si l'entraîneur met la pression à des joueurs qu'il faut, s'il fait tourner les joueurs qui se sentaient un petit peu dans une place confortable, même s'ils ne gagnaient pas, eh ben ça redistribue les cartes, c'est une chose, mais il y a une façon d'être envers les joueurs psychologiquement que beaucoup d'entraîneurs, style Simeone, arrivent à faire, que d'autres arrivent à moins. Et c'est ce que tu arrives à faire avec Bordeaux, si je pense que Poyet a fait quand même quelque chose, même si cette équipe, elle est encore un petit peu malade. Faut pas rêver.
T'as dû connaître, toi, des scènes comme ça aussi, hein, François, dans les vestiaires, non? Où des mecs lâchent le coach, il y en a un autre qui arrive, et puis tout.
C'est pas vraiment lâcher le coach. C'est pas.
Le message passe plus.
Ça peut arriver.
Le message passe plus.
Mais c'est que quand il parle d'ado, et c'est toujours moi qui étais journaliste, mais il y a très, très, très longtemps, c'est après que quand tu bascules de l'autre côté de la barrière et que t'es en relation avec les joueurs, que tu vis 24 avec eux et avec un coach et un staff, tu t'aperçois que, ouais, c'est une grande bande d'adolescents, multimillionnaires pour les meilleurs d'entre eux, et que il faut parfois se retenir entre foutre des baffes, des coups de pied au cul,
montrer
et
de
puis
la
passer
boue.
La pommade en même temps, parce que si tu la passes pas, ils peuvent te carotter sur le terrain. Moi, je rejoins mais à 1000% ce que dit Alice, c'est la réalité, c'est comme ça. Quand tu es de l'extérieur, quand tu es dans un média, tu te dis oui, la tactique, le tableau noir, la préparation physique, et t'as pas tort complètement. Sauf que tu
oublies l'essentiel.
Sciemment ou alors par méconnaissance du management, ce qui est souvent le cas dans le monde des médias, tu oublies la part de relation avec les joueurs, comment tu les galvanises ou comment tu les rends apathiques, parce que ton message passe plus. Je parlais d'escrocs la semaine dernière à propos des Bordelais, gentiment, et là je m'aperçois que l'escroquerie elle continue un petit peu. Il y a un nouvel entraîneur. Poyet, c'est le meilleur entraîneur du monde? Non.
Ah bah attends, on va voir ce qu'il en pense, Benjamin. Il est supporter des Girondins. Il a appelé au 32-16 et il est avec nous en direct dans l'after. Salut Benjamin.
Bonsoir tout le monde.
Salut Benjamin. Salut
Benjamin. Bon Benjamin, ça fait 3-3 pour Poyet. Ça fait même 4-4 d'ailleurs depuis que Gourvennec est parti, puisque l'intérim avait débuté par une victoire là aussi. Comment tu l'expliques, toi, ce renouveau des Girondins?
Je sais pas, on a tendance à dire que choc psychologique n'existe pas ou parfois ça marche sur du court terme. Je sais pas si le groupe s'est lassé, puisqu'on a eu pas mal de déclarations derrière disant qu'ils étaient tous très très déçus qu'ils sont partis. Du départ de Gourvennec.
Ouais, il y en a même un qui s'est barré du club, hein.
Ouais,
il
n'est
pas
sûr,
n'importe lequel.
Donc je pense que c'est ça qui est étonnant, c'est que après voilà, on a eu des choix sportifs qui ont été faits quand même au départ par Bédoué avec Pablo qui a été installé. On a sorti tout la lampe derrière, ça faisait un petit moment qu'il devait sortir,
oui.
Et on a découvert le petit Jules Koundé qui est époustouflant.
Et qui a marqué ce soir.
Ouais, sans parler du but, c'est vous verrez quand vous aurez un peu plus l'occasion de le voir sur longueur. C'est calme, ça relance propre,
c'est costaud,
c'est
solide.
Ouais.
C'est pas un physique, c'est un physique d'1m83 normal, mais très intelligent et surtout très calme pour son âge. Et donc voilà, et puis les choix ont été faits, mais il y a une vraie différence, c'est que moi je le vois du bord du terrain, c'est que même si, je sais pas, je pense pas que ce soit le meilleur entraîneur du monde non plus, mais c'est qu'il est derrière ses joueurs. Sans cesse, il siffle. On dirait Fernandez à l'époque du PSG. Mm-hmm. Ah, c'est incroyable. Il en lâche pas un. Et puis, il communique tout le temps avec ses adjoints. Un truc tout bête. À un moment, il y a une action mal faite par Braithwaite. Il a été voir Camano. Il lui a dit, voilà, ça, je veux pas que tu, quand tu rentres, je veux que tu sois différent. Et il concerne tout le monde. Et voilà. Et puis maintenant, il a trouvé une petite assise défensive, même si la fin du match est un peu ternie. Par le
mais
sport,
Benjamin, mais... je pense pas que Jocelyn Gourvennec, il l'avait prouvé, était un entraîneur qui laissait flotter les rubans. Je pense que les consignes, je pense que l'approche avec les joueurs était bonne. Quand on parle d'escrocs tout à l'heure, c'est parce que la plus grande difficulté, je pense, pour un entraîneur, une fois qu'il a fait la base, comment on va jouer, quel système, quelle animation et quel joueur je vais mettre dans mon système, une fois que cette base elle est décidée, après c'est tes mecs-là, comment toi, en tant qu'entraîneur, tu te renouvelles pour les motiver, pour les piquer, pour les amener toujours à vouloir aller chercher la victoire. C'est ça, ouais. Sur 9 mois de saison
mais le problème,
en Ligue 1
le problème,
ou dans un autre championnat, qui sont très durs. Et c'est là où tu vois la différence entre les très grands dans le management, les moyens et les mauvais,
certainement,
ou les escrocs.
Non, mais certainement, mais à un moment, quand même, il y a eu un choix d'homme qui n'a pas été fait par Gourvennec pendant les 4 derniers mois
penses?
De... Bah rien, tout simplement, il s'entêtait avec Poulalan derrière et Jovanovic, même si Pablo est arrivé qu'en janvier, Koundé, il est là depuis le début de l'année. Voilà, tout bête. Même si c'est pas lui qui nous a apporté toute la stabilité,
oui.
Derrière, après voilà, on a retrouvé un bon Costil qui rassure et qui fait des arrêts déterminants.
Oui, oui.
Et après, on a...
Mais tu as raison. Tu as certainement raison là-dessus. Après, il y a aussi une autre chose qui touche les entraîneurs, et c'est une question d'orgueil, c'est que quand tu as un nouvel entraîneur qui arrive,
oui.
Il va obligatoirement, oui, redistribuer, il va faire aussi des choix forts, parce qu'il ne peut pas reprendre exactement la même compo de celui qui l'a remplacé. Sinon, on va dire, attends, là c'est... Qui se fout de la gueule de qui ?
Oui, mais il y a le fameux aspect psychologique, le management dont tu parlais
aussi,
tout à l'heure. Aussi,
c'est même pas aussi, ça. C'est un cocktail. Non, c'est un mélange.
C'est pas le même regard. C'est-à-dire que je te donne le même effectif, toi tu vas me trouver lui et lui bon, et toi tu dis non, je
regarde,
préfère lui et
regarde,
lui.
A priori, ils l'ont fait venir, c'était pas une mauvaise pioche.
Et c'est pas Poyet.
Mais Poyet est en train de le foutre sur le banc.
Ouais, parce qu'il trouve que Pablo et Koundé lui apportent.
Mais ça marche.
Ce qu'il veut lui.
Ça marche.
Non.
Pour l'instant,
c'est vrai
ça marche.
Que ça
les résultats, ça marche.
Mais il y a aussi que après, quand tu gagnes, l'équipe, elle se sent mieux. Elle est plus sereine. Donc une victoire à l'extérieur avec Bédouin, une deuxième à domicile, et qui plus est contre Lyon. Et là, les joueurs, ils se sentent mieux. Donc, les contrôles et les passes se font totalement différents. Et ça rassure. Et ça transforme quelque chose.
Et puis, en plus, on a beau dire, ce qui est spectaculaire dans ce sport, c'est que, il y a quelques semaines, Sankaré aurait eu le contre, mais ça aurait peut-être touché la barre. Et là, sur son coup franc, on aurait pas mis poteau et aurait mis Lucarne.
Tu sais que je suis en train de regarder le classement. Bordeaux, ils sont quand même 7e un soir.
Non, mais c'est incroyable.
Ah oui, ils étaient à la rue.
Non, mais c'est hyper sérieux. On disait Montpellier monté à la 5e place.
Alors, tiens,
Benjamin, tu le sais certainement, mais la semaine prochaine, c'est sympa quand même ce qu'attend Bordeaux.
Un petit
Marseille-Bordeaux, là.
Avec un Mandanda blessé, avec...
Il est déjà optimiste, le Benjamin.
Ah non, mais...
Ça fait 10 ans que Bordeaux n'est pas allé s'imposer à Marseille, depuis 2007-2008.
Ouais, mais ça fait quelques années qu'on ne perd pas non plus, je crois, pas trop.
Ouais, il y a beaucoup de matchs nuls, je crois qu'il y a... Ouais, il y a 6 ou 7 matchs nuls, ouais.
On va aller le jouer tranquille, je pense. C'est maintenant qu'on a pris les points avant d'y aller. On est tranquille, c'est pour ça qu'il fallait absolument gagner ce soir. Mais il va être sympa à jouer.
Ouais, tranquille, Benjamin.
Non,
attention
pas.
Là.
Oui,
les deux buts qu'ils mettent là à Amiens, ça a dû en énerver quelques-uns, je pense. J'espère en tout cas au sein de l'effectif.
C'est top. Enfin, top. Ça va être top parce qu'il va les remobiliser sur ça.
Oui,
et que derrière,
doute,
même si voilà, on y va forcément en outsider, mais bon, il y aura des coups à jouer dans le dos avec Malcolm. Et puis voilà, si ça se goupille bien, on verra. Mais en tout cas, en allant avec 12 points en plus à Marseille, on est globalement plus tranquille, on regarde plus derrière.
Ça change tout, mais moi ça m'agaçait un certain temps que les jeunes qui sortaient du centre de formation après disparaissent, tu vois. Et c'est dommage, t'avais un bon petit groupe. Et là, on retrouve Pungé, là. Que j'aimais bien.
Qui
avait disparu, comme on disait, ouais, mais il est pas trop bon et tout. Non, moi je l'aimais bien. Et il est en train de revenir, et hop, il tient sa place, et il fait des
matchs.
Et t'en as plusieurs.
Comme ça.
Laborde le prouve aussi. Donc il peut s'imposer en tant que centre de formation de Bordeaux. Et j'aimerais bien que les Girondins de Bordeaux fassent. basse confiance dans le groupe, je dis pas spécialement en tant que titulaire, au sein de la formation des Girondins.
Non, mais on a le petit Youssouf qui est rentré dans le groupe.
Ouais.
Et je crois que il y a un nouveau qui va pas tarder à rentrer dans le groupe, ça s'appelle Tchouaméni. Là,
peut-être que Pouillet va peut-être s'appuyer sur ça, ça serait ça.
Oui, et puis surtout maintenant, il a trouvé quand même sa base défensive. C'est dur pour Paul Pace parce que avec son carton rouge peu bête contre Caen, mais il est sorti tout seul du groupe. Hein.
Ben, il faut qu'il se batte.
Mais il va se battre. Mais
c'est bien d'avoir 3-5 aussi. Hein.
Un tout petit bémol pour Poyet. À 3-1, quand on prend le but, donc il s'agace. Et il a une manie qui est de passer à 3 derrière et il a tout désorganisé.
Non.
Ah si, je peux t'assurer, Ali, qu'au milieu de terrain, il ne savait plus du tout où se mettre. Tout le monde est rentré quand Poyet s'est rentré.
Parce qu'il avait l'habitude du maintien. Là, de, s'il commence à gagner, à être dans une bonne position, hop.
Oui,
il
oui,
a
non, mais
retrouver
pour ça,
le maintien.
Mais il a, non, mais il a un peu paniqué. Enfin, il le fait souvent là, ces derniers matchs. Il a tout désorganisé, mais bon, après, globalement, voilà. Après,
je suis d'accord avec Benjamin, tu passes pas à 3 derrière si tu l'as pas travaillé depuis un certain
temps.
Il reste encore, il a joué beaucoup le maintien dans les clubs où il était. Il avait souvent de la peur.
Oui, mais en quoi justifie de passer de 4 à 3 derrière?
Bah, on remercie Benjamin qui nous a appelé. Merci Benjamin, bonne soirée à toi.
Salut,
à bientôt. Salut Benjamin. Ciao Benjamin. Tiens, juste pour être très précis, il y a Bordeaux et Marseille. Reste sur 5 matchs nuls d'affilée. Alors Bordeaux, oui. D'affilée bientôt. Voilà. Alors que ce soit Bordeaux-Marseille ou Marseille-Bordeaux derrière. Il y a eu 5, d'ailleurs, il y a eu 5 matchs nuls. Il y a eu 2x1-1, 2x0-0, 1-1 encore une fois. La dernière victoire de Bordeaux à Marseille, c'était à domicile, c'était en 2015. Et juste avant, il y avait eu une victoire de Marseille à domicile 3-1. Et avant encore, il y avait eu 2 matchs nuls. Donc en gros, sur les 9 derniers, il y a 7 matchs nuls.
Ma foi, tu es extrêmement complet, Nicolas.
Ça veut dire quoi? Comment avoir un match nul?
Alors tu vas voir, statistiquement, si on se réfère aux 10 derniers, t'as une grande probabilité qu'il y ait un partout 0-0.
Référons-nous.
Un partout 0-0. Voilà. Bon, je pense qu'il y aura beaucoup plus de buts que ça.
Bah, écoute, je te le souhaite.
Quand tu vois la défense de Bordeaux à l'extérieur, celle
dans
de
quelques instants, on va se plonger dans le match entre Dijon et Nice. Match spectaculaire. Victoire 3-2 des Bourguignons. Alors, un match riche en rebondissements. On sera avec Romaric qui était au stade. Vous savez, on le disait tout à l'heure, il y a eu une information qui a été balancée sur le compte Twitter de l'OGC Nice, comme quoi Balotelli aurait été victime d'insultes racistes. Bah, Romaric, il était au stade. Il va peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus. Et on vous attend, supporters niçois et supporters dijonnais au 32-16 avec François Malardo et Ali Benarbia. À tout de suite pour la suite de la.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours avec Ali Benarbia et François Malardo. Et vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Sachez que cet après-midi, le Paris Saint-Germain a battu Toulouse 1-0. Di Maria mérite-t-il d'être titulaire dans 4 jours face au Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions? On vous pose la question. Commencez à nous appeler au 32-16. Bordeaux a battu Amiens 3-2. Succès de Monaco 4-0 à Angers. Montpellier s'est imposé à Metz 1-0. Pas de but entre Guingamp et Caen. Et le match qui nous intéresse, Dijon a battu Nice 3-2 avec encore une fois un excellent Julio Tavares qui a claqué un doublé pour les Dijonais. Lesmelou Epler avait marqué pour les Niçois. Le but de la victoire, il a été marqué en toute fin de rencontre par le Sud-Coréen Kwon. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que les Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud, eh bien c'est à suivre sur RMC avec toute la Dream Team, bien évidemment. On va accueillir Romaric, il est supporter du DFCO, supporter de Dijon. Il était au stade, Romaric, il a assisté au succès de son équipe 3-2 face à Nice ce soir. Salut Romaric.
Bonsoir messieurs, bonsoir Ali, bonsoir François,
salut,
bonsoir
Nico. Romaric qui était un fidèle de l'after, hein, Romaric.
Oui. Alors bravo la transition Nico, je pense qu'à RMC ils ont dû apprécier la transition entre Kwon et les JO.
Ah, attends.
C'est un métier. C'est Nicolas Villas.
Je travaille pas que les no papes, hein, mon gars. C'est...
Mais pas que les no papes et la barbe.
Il joue pas le maintien, Nico.
Nico, il joue l'after le samedi et il le fait très très bien, et pas que le samedi d'ailleurs.
Ouais, bien entendu.
Nico, comme d'habitude, on te félicite.
Je suis pas sûr que tu gagnes.
Attends, Romaric, juste avant qu'on rentre dans le match.
Oui.
Alors attends, tu sais quoi, je sais que tu voulais en parler. Tu voulais parler des prestations extraordinaires de Julio Tavares, pas vrai?
Oui.
Et devine qui est en direct avec nous dans l'after. Julio Tavares est avec nous. Bonsoir, Julio.
Bonsoir.
Bonsoir Julio.
Bonjour. Bonne nuit. Bienvenue. On va se la faire à la radio Alpha, les mecs en guêche. Allez, c'est parti.
Un peu, ouais.
Ah ouais, c'est vrai que François, tu parles portugais ou pas, Ali?
Ben, pour Avida.
Ça va pas.
Pour Avida. Alors, Julio, pas d'avance, comme on dit. Bravo, félicitations pour cette victoire et pour ce doublé.
Merci.
Et quel match, hein. Il est complètement fou ce match-là face à Nice, hein. Vous avez pas cogité un moment quand même?
Si, après, qu'ils aient marqué ces deux buts coups sur coup, c'est un coup au moral. Après, on a douté et on a la chance d'avoir ce penalty qui nous remet dans le match, on va dire.
Alors, Dijon est 12e, hein, avec ce résultat au classement. Alors, c'est vrai que c'est hyper serré. Y a deux matchs importants également à venir pour Dijon, forcément. Alors, tu me diras, tous les matchs vont être importants maintenant pour Dijon.
Oui.
qu'est-ce que vous visez là maintenant alors? Vous visez peut-être un peu plus haut, vous dites quoi en ce moment? Ah si, laisse-moi, non, laisse-le rêver, mais... Ali.
Nous, premièrement, c'est le maintien, et absolument. Faut qu'on essaie de se maintenir le plus vite possible, et après, on pourra se mettre à rêver. Mais le plus important, c'est d'avoir le maintien.
Je suis d'accord avec Julio dans le sens où ça va très vite dans ce championnat. Tu crois que tu as respiré, tu te sens bien, et d'un coup, tu te retrouves à te battre avec la 17e, 18e, 19e place.
Oui, c'est sûr, parce que déjà, il n'y a pas longtemps, on était 9e.
Ouais.
Et en pas gagnant deux, trois matchs, on a vu que les autres se recollaient vite et qu'on était plus qu'à 3 points de la zone de relégation. Donc oui, ça va très très vite. Et on sait que nous, on joue le maintien et seulement le maintien.
Alors, il n'y a pas longtemps, on était avec Olivier Dalloglio, hein, l'entraîneur de Dijon, dans l'after également. Ça joue pas mal du côté du DFCO. J'imagine que quand on est attaquant comme toi, Julio, on prend du plaisir à jouer à Dijon.
Oui, c'est sûr. Moi, ça fait quelques années que je suis là. On a une équipe qui joue au football. Après, voilà, je prends énormément de plaisir et j'espère que ça va continuer. Mais notre problème, c'est défensivement, on prend un peu trop de buts.
Comme l'année dernière, comme la saison passée, il y a toujours eu du jeu. Depuis que Dijon est remonté, on a vu qu'il y avait du jeu, une intention de faire du jeu. Puis l'année dernière, il y avait aussi le tandem que vous formiez avec Dioli. Mais défensivement, c'était des soirées portes ouvertes, quoi. Et ça s'est pas totalement réglé. Voilà, maintenant on s'en sort par le jeu, je crois.
Ouais.
Et Dijon arrive, bon an mal an, à tirer son épingle.
Je pense surtout, Julio, c'est votre problème, c'est l'extérieur. À domicile, on sent que vous êtes serein, vous êtes bien, vous faites des points. Vous vous sentez que psychologiquement, vous avez la capacité de gagner. Et dès que vous gagnez et que vous allez à l'extérieur, c'est totalement différent.
Oui, c'est là que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sûr qu'à l'extérieur, on n'arrive pas à reproduire ce qu'on produit à domicile. Mmh. Ça fait déjà quelques années. L'année dernière aussi, on a gagné seulement 2 matchs à l'extérieur. Voilà, faut qu'on arrive à aller passer ça et essayer de mieux faire à l'extérieur. Parce que je pense que si on faisait des résultats à l'extérieur, on serait beaucoup plus haut au classement.
Alors Julio, ça fait 9 buts hein, d'un point de vue personnel pour toi depuis le début de la saison Ligue 1. Est-ce que tu t'es fixé un objectif à ce niveau-là?
Non, j'avais pas d'objectif. Mon objectif, c'était juste de faire aussi bien que l'année dernière, on va dire. Là, j'ai réussi à mettre un but comme l'année dernière. Voilà, maintenant, je vais essayer d'en mettre le plus possible.
Tiens, Julio, on va lui faire plaisir. Il y a Romaric qui est un fidèle auditeur de l'After et grand supporter de Dijon qui est en direct avec nous. Et je crois qu'il a un message à te faire passer parce qu'il voulait justement qu'on parle plus de toi, Julio, dans l'After.
Ouais, bonsoir à tous et bonsoir Julio tout d'abord. Franchement, bonsoir. Félicitations pour ton match.
Merci, c'est gentil.
Tu nous procures vraiment beaucoup de plaisir à te suivre. Moi, j'habite loin et j'essaye à chaque fois de faire les déplacements pour venir à Dijon regarder le match. Et vraiment, ton réalisme, j'ai cru apprendre il y a quelques jours que tu étais le meilleur buteur en Europe sur les 5 plus grands championnats au niveau des tirs frappés, tirs qui vont au fond des filets.
Au niveau du ratio,
Ouais, je tiens à te féliciter, c'est vraiment impressionnant le réalisme que tu as depuis le début. Et surtout également pour les supporters, c'est très important, mais Julio est quelqu'un de très disponible et très amical, et il faut le mettre en avant parce que au jour d'aujourd'hui, les footballeurs ne sont pas tous comme Julio. Et voilà, Julio il vient de très loin et il a fait un énorme parcours pour arriver là où il est. Et c'est vraiment un joueur qui est sous-coté, mais vraiment sincèrement. Et je lui souhaite vraiment la plus grande des réussites. S'il peut aller dans un plus grand club, je lui souhaite également parce que c'est vraiment un joueur qui nous...
À Saint-Etienne, parce que il y en a un qui a besoin de lui. Il y en a un qui a besoin de rejouer avec lui.
Non, non,
ah oui,
il
mais vraiment,
parti,
Julio,
c'est vrai,
vraiment, continue ce que tu fais à Dijon. T'es vraiment apprécié. T'es le meilleur buteur du club. Et vraiment, c'est notre Cavani à nous. Voilà. Merci, Julio. Merci,
ouais, c'est
merci,
sympa, merci. Julio, ça.
Merci, Cavani de Bourgogne. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Alors, c'est vrai, Julio, que les gens connaissent pas forcément ton parcours, mais t'as pas mal galéré, Julio, dans ta carrière avant d'arriver au niveau pro.
Oui, après, on va pas dire j'ai galéré, parce que, voilà, moi, j'ai jamais eu l'objectif absolument d'être professionnel, donc, voilà, je joue au foot pour plaisir avec les collègues. Après, j'ai de la chance de passer beaucoup d'échelons et d'en arriver là. Après, pour moi, je trouve pas que j'ai galéré, c'est juste que j'ai un peu de réussite, et voilà, je suis là aujourd'hui et je suis très content.
Alors, juste un dernier mot, Julio, le prochain match, c'est face à Monaco. Il vient d'en claquer 4 face à Angers. Ça va être un gros morceau, hein, Monaco aussi.
Oui, c'est sûr. On sait que Monaco, voilà, c'est pas notre championnat, non. On sait que ça va être compliqué. Après, voilà, on y va pour faire le maximum et essayer de ramener le petit point de là-bas. Ce serait beau.
Bon, ils envoient un CV à Monaco. Ils aiment bien les lusophones, hein, donc.
Par contre, si vous partez là-bas pour pas prendre des points, il fait beau, hein, en tout cas à Monaco.
Oui, là-bas au moins c'est beau, parce que déjà ici, il est très proche du phare. C'est sûr qu'au moins on va voir le soleil là-bas.
Exactement.
Merci beaucoup, Julio Tavares, d'avoir été en direct avec nous dans l'after. Encore bravo. Et merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Et on enchaîne parce que c'est aussi ça l'after. On était avec Julio Tavares en direct dans l'after. Maxime Pungé, le défenseur des Girondins de Bordeaux, est avec nous. Bonsoir, Maxime.
Bonsoir, monsieur.
Va falloir que tu sois bon parce que Julio Tavares, l'attaquant de Dijon, il a été bon là avec nous. Hein.
Pas de souci.
Bravo pour cette victoire, Maxime.
Merci, ça fait plaisir.
Alors, Maxime, c'est la question qu'en ce moment tout le monde se pose, et nous on se la posait également dans l'after il y a quelques instants. Qu'est-ce qui a changé depuis que Gustavo Poyet est arrivé alors?
Ah, vous savez, le football, ça tient pas grand-chose, hein. Vous savez aussi bien que moi. Le coach est arrivé, la situation était très très compliquée. Il fallait faire quelque chose. Il fallait repartir de l'avant. Et il a mis sa joie, sa bonne humeur, son caractère. Et là, mais je pense qu'il a redonné aussi le sourire à tout un groupe. Et ça, c'est important.
Maxime, bonsoir. Par rapport justement à ce qu'on était en train de dire avant de t'avoir avec nous au micro dans l'after, ce qu'on partageait avec Nico et Ali, c'est que les joueurs, vous pouvez parfois avoir un drôle de comportement, parce que je pense que Jocelyn Gourvennec était un bon manager, et je suis pas le seul à avoir cet avis, je pense que tu seras aussi d'accord avec nous, mais c'est qu'à un moment donné, peut-être, son message passait plus, ou il passait moins bien, ou alors les joueurs s'endormaient un peu. Et là, avec ce que tu viens de me dire par rapport à Poyet, on a presque l'impression qu'il suffirait d'avoir un géo d'un club méditerranéen qui redonne le sourire, qui redonne la pêche, et hop, ça repart. C'est pas le cas. On n'est pas en train de faire une telle caricature, mais il y a un peu de vérité. Il y a un peu de vérité là-dedans.
Vas-y.
Non, c'est pas une critique. Il y a un peu de vérité aussi là-dedans.
Il va répondre.
Maxime, vas-y.
C'est un peu caricaturé, mais c'est vrai que quand on voit la situation du club, ce qu'elle était avant, mais après, il faut savoir aussi que il y a eu un match avec Eric Bédoué. Ça s'est bien passé aussi. Donc voilà. Après, moi, personnellement, j'avais parlé à l'équipe et puis j'avais dit que de toute façon, la série qui était en cours, qui était quand même très 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 décevante à ce moment-là, c'était avant le match de Marseille, j'avais dit clairement que cette série-là ne reflète pas la qualité intrinsèque de ce groupe, les effectifs égales, la qualité. Mais c'est vrai que de l'extérieur, quand on voyait les résultats, c'était très très compliqué. Je pense qu'il fallait retrouver de la confiance à tous les niveaux. Il fallait retrouver ça, c'était très très important. Et donc voilà, après le football, ça tient vraiment à pas grand chose. Par exemple, ce soir, on peut être mené 1-0 très tôt, très très tôt. Je pense qu'il y a un mois, on l'aurait peut-être pris ce but. Et ça aurait changé la physionomie du match. Ce soir, on le prend pas. Le joueur tire à côté, miraculeusement, on sait pas comment. Et puis derrière, on réussit à marquer juste derrière et à enchaîner. Voilà. Il y a des choses, parfois, qui sont difficilement explicables.
Mais alors, Maxime, en guise d'explication par rapport aux deux buts que vous encaissez en fin de match, est-ce que ça a été pendant un quart d'heure, 10 minutes, le retour du mauvais Bordeaux de ce début de saison? Est-ce que vous avez eu un peu peur de ça?
Ou peut-être un Amiens qui est bon aussi.
C'est une erreur.
Ils ont vraiment un Amiens aussi. Hein.
Un peu les deux, attends.
Bah après, c'est vrai que vous savez, la balle est ronde. Ils mettent un but sur une erreur, un deuxième but. Bon, après, c'est le football aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a su tenir, nos trois points. Parce que, quelque temps, je vous dis, je sais même pas si on se serait pas fait rattraper, honnêtement. Et alors, c'est vrai que quand on prend un but, deux buts comme ça sur la fin, on est là, on se dit, oh, attention, on est un peu, faut faire très très attention, faut pas prendre ce troisième but parce que tu peux tout perdre. Et donc là, il faut être très très attentif. Mais c'est le football. Mais ce qui est bien, moi, j'ai envie vraiment de retenir les trois points et cette spirale positive que les Girondins de Bordeaux ont retrouvée, c'est hyper important et il faut capitaliser sur ça. Et il faut que le groupe retienne les trois points. Alors, c'est sûr que tout n'a pas été parfait. On a pris deux buts à la fin du match, on n'a pas été parfait, mais on va rectifier ça et continuer d'avancer.
Maxime Pungé est en direct avec nous dans l'after. Bordeaux s'est imposé 3-2 face à Amiens. Il a été champion de France avec Bordeaux. Il a une question pour toi, Maxime, c'est Ali Benarbia.
Bonsoir, Maxime. Ça tombait bien parce que je parlais juste avant de toi, juste avant Conte. Donc c'est une chance, dans le sens où je t'ai laissé à Bordeaux un certain temps quand je t'ai venu, où tu étais titulaire et tu étais très bon sur le côté gauche. Et tu as disparu progressivement, je ne comprenais toujours pas. Donc là, les cartes sont un petit peu redistribuées. Tu retrouves ton poste d'arrière-gauche. J'espère que tu ne vas pas le lâcher. Et je militais un certain temps pour toute cette jeune génération du centre de formation où il y avait eu les Ounas, je crois les Touré aussi qui a disparu, c'était dommage. Et vous aviez des très bons joueurs d'une très bonne équipe. Et je pense que quand ça va mal, Bordeaux devrait s'appuyer sur la formation en les faisant un peu plus jouer.
Alors Ali, figure-toi que je t'écoute souvent, je t'écoute beaucoup, je sais que tu milites pour ça. Et je t'en remercie parce que c'est bien, c'est flatteur pour la formation, pour les formateurs. Je pense que voilà, à Bordeaux, il y a vraiment un centre de formation de qualité. Mm-hmm. Il y a un centre de formation.
Attendez la
de
preuve d'ailleurs, Maxime.
Vous savez, le football, des fois, on est bon, on est moins bon, mais ça arrive. C'est l'histoire d'une carrière. Mais faut pas cracher là-dessus parce que on peut voir que dans les moments difficiles, regardez le jeune Koundé, il marque ce soir, il a fait des prestations, mais vraiment de très bonne qualité. Depuis qu'il est arrivé, dans une période vraiment très très compliquée où ça n'allait pas comme les rondins de Bordeaux, mais regardez la sérénité qu'il affiche.
Voilà, oui, on en parlait tout à l'heure, justement.
On a parlé tout à l'heure.
Ali, tu parlais de Adam Ounas.
Oui.
Honnêtement, le stand des rondins de Bordeaux est de très bonne qualité. Pas ce qu'on a pu entendre un peu à droite et à gauche. Alors, c'est sûr que quand ça va pas, on tire un peu à boulet rouge surtout. Mais voilà, je pense que c'est hyper important de pouvoir s'appuyer sur des jeunes du cru. Les jeunes qui viennent du centre de formation, qui ont la culture club, c'est voilà, hyper important. Et je pense que ça a été très très bénéfique de recruter par exemple un garçon comme Paul Bayes, voilà, qui connaît la maison, il sait, il parle, il aime aller vers les gens, et voilà, c'est très très important pour un club, notamment comme les Girondins de Bordeaux.
T'as été bercé à l'after, toi, non, Maxime? Ah, tu parles bien et tout, t'es bien là, t'as la maison là, non?
Mais ils viennent de gagner.
Bah, il me disait, t'écoutes, non, de temps en temps.
Non.
T'écoutes, non, pas de temps en temps, Maxime.
De temps en temps, ça m'arrive de vous écouter.
Et tu kiffes.
Enfin, mon père vous écoute beaucoup. Mon père vous écoute énormément.
Comment il s'appelle, ton papa?
Joseph.
Eh ben, Joseph. Voilà.
On l'embrasse,
Joseph. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Encore bravo pour cette victoire.
Merci à vous.
Et lâche pas ta place, Maxime.
Et c'est vrai, beaucoup de lucidité aussi.
Ah oui, mais très très belle analyse de Maxime Pounjé. Merci, bonne soirée, Maxime.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci.
Merci. Salut, bonne soirée. Voilà. On était bon, là. Julio Tavares, Maxime Pounjé. Là, Jérôme Thomas.
Il était bien l'émission.
Ouais, parce que ces derniers temps, il était un peu comme Rennes.
C'est-à-dire
Jérôme, il était pas trop bien. Là, ça va, il est bien ce soir.
Tiens, on finit avec Romaric, supporter du DFCO qui était avec nous. Romaric, excuse-nous, hein, gros tunnel, mon pote, mais là, on était priorité au direct.
Ah, il a eu Tavares.
Ouais, t'as eu Tavares.
J'ai eu Tavares et j'ai écouté Pounjé qui est vraiment très,
bon,
très, très intelligent dans ses. Vraiment la classe, quoi. Vraiment la classe pour ce joueur.
Il a du bon.
Vraiment, j'ai écouté son discours, c'était vraiment très intéressant.
Alors, Romaric, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais au stade, toi, tout à l'heure, dans le match entre...
Il y a eu un truc de dingue. Et alors, je veux vraiment mettre en avant les supporters dijonnais parce qu'il s'est passé un truc de dingue. 70e minute, à peu près, Balotelli fait une bicyclette complètement foireuse dans la surface de réparation dijonnaise pour essayer de marquer. Il y a 4 abrutis, il n'y a pas d'autre mot, hein, qu'on fait des cris de singe. Et donc, la très bonne réaction de Balotelli qui montre, vous pourrez regarder les images, hein, tout ce que je vous dis, je pense que ça doit se voir à la téloche, il montre les 4 abrutis qui ont fait des insultes racistes, je pense des cris de singe, on n'a pas entendu de mon côté, j'ai pas entendu, et on pense que c'est ça. Et il y a eu un appel du speaker, et j'ai trouvé ça génial, un appel du speaker qui demande en gros à faire taire les 4 abrutis qui l'ont ramené, et tout le public s'est mis à siffler pendant l'espace de 10 secondes. Ces 4 gars-là. Et j'ai trouvé ça super bien. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire à 4 abrutis. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il faut les mettre en, il faut les stigmatiser, ces mecs-là, et les foutre dehors des stades. Parce que c'est vraiment des boulets. Et qu'on n'assimile pas un club ou des supporters à ces 4 cons. Ces 4 connards, pardon.
Qui t'as raison, je préfère. Moi aussi.
Voilà. Et j'ai trouvé super bien l'appel du speaker. Qui a demandé suite, je pense, à ce que les arbitres ont dû faire la réclamation. Et en plus, ce qui est dégueulasse, c'est que Balotelli a pris un jaune, alors que je pense qu'il ne le mérite pas sur le coup, même si Balotelli a gâché beaucoup d'occasions pour les Niçois ce soir.
Enfin, on prend pas de jaune parce qu'on gâche des occasions, hein, mais...
Ouais, non, mais voilà, le mec, je pense qu'il en avait gros sur la patate, et en plus de ça, t'entends 4 cons, 4
quatre abrutis qui font ça. Et il faut vraiment, je non, pense, mais, que, mais vraiment, foutre dehors ces mecs-là des stades, quoi.
Non, mais ça, non, mais ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il faut non seulement les foutre dehors, mais même les poursuivre en justice.
Je suis entièrement d'accord.
Il y a les moyens utilisés, voilà. Que ce soit le club, ou alors le club visiteur, la ligue, etc. Ça, il faut à un moment donné aussi en France.
Mais ce que j'ai aimé, c'est
au club de le faire. Si le club le fait, la ligue n'est pas obligée de prendre le relais. Voilà.
Mais ce que j'ai aimé, messieurs, c'est que le speaker
Oui, mais souvent les clubs le font à sa place, ils substituent.
En revanche, et Dieu sait si je suis le premier à les défendre, souvent, parce qu'on leur met tous les maux de la terre sur le dos, les arbitres. Mais là, ce soir, qu'on m'explique comment il va mettre un jaune à Balotelli, qui vient lui expliquer qu'il a entendu des insultes racistes. Ok, il a peut-être pas un français parfait, mais c'est facile à comprendre.
François, tu sais ce qui serait bien, il y a pas mal de pays où ça se fait, où il y a beaucoup de suspicions autour des arbitres. Il faudrait qu'en France, peut-être, on fasse comme dans certains pays où l'arbitre d'ailleurs est pas forcément l'arbitrage est pas forcément une référence, mais c'est que les rapports des arbitres soient rendus publics. Il y a des pays, au Portugal par exemple, ça commence à se faire, parce qu'il y a beaucoup de suspicions autour de l'arbitrage. Ils écrivent noir sur blanc les insultes que les joueurs ont proférées à leur égard pour que derrière, il y a sanction ou quoi que ce soit. Là, l'arbitre, il met un jaune. Les explications sont données, les justifications, il met un jaune. L'arbitre, il explique pourquoi. Et là,
Alors, pour y avoir bossé pendant un certain temps, à la fédération en général, mais c'est vrai qu'il m'est souvent arrivé de collaborer avec les arbitres, Nicolas, je trouve que c'est une excellente idée, parce que plus tu apportes de la communication et de la transparence, tu mets aussi tout le monde devant ses responsabilités. Exactement. Parce que je vois maintenant sur les réseaux niçois ce soir que ça commence un peu à se déchaîner sur un ville, l'arbitre, mais effectivement, il faudrait qu'il le fasse.
Et le micro?
Ouais,
le micro, attention, alors le micro, c'est ça, c'est une décision qui doit monter en Suisse à la FIFA.
On remercie Romaric qui nous a appelé au 32-16. Encore merci Romaric.
Ciao, Romaric.
T'as eu ton kiff? T'as eu ton moment avec Julio Tavares?
Oui, trop content, merci pour tout.
Et t'as eu la victoire, et merci à toi Romaric, à très bientôt.
Allez, bonne soirée, messieurs.
Allez, ciao. Salut. Allez, nous dans quelques instants, on va revenir sur la victoire de Montpellier face à Metz. Le Paris Saint-Germain qui a gagné face à Toulouse, 1-0. Di Maria da Silva titulaire dans 4 jours face au Real Madrid. On vous pose la question, on vous attend au 32-16 avec Ali Benarbia et François Malin.
RMC, le super football show, l'After Foot.